Chapitre 2. Le Pierrot Blanc. Tout en parlant, Martin Huma, avec une habileté que l'eussent envié les plus expertes modistes, se mit à coudre dans la capuche de son domino un nœud de ruban blanc, formant, comme chez la belle Elvira, une croix de Saint-André. Il reprit. J'ai aussi étudié, avant de venir ici, la loge de la Focamore et les alentours. Il y a dans la loge un Pierrot Blanc, et j'en ai croisé deux ou trois dans les couloirs. « Ah, ce sont probablement des espions, des conjurés. C'est leur costume de reconnaissance. Je le crois. » Vous savez qu'avec le domino, le meilleur et le plus commode déguisement, c'est le costume de Pierrot, qui, ample, dissimule absolument l'individu, permet, si l'on veut, de conserver dessous son habit de soirée. En effet, la présence de ces Pierrots dans les couloirs et de l'un d'eux dans la loge d'Elvira n'est pas naturelle. Il est certain que c'est leur tenue de ralliement. J'espère toutefois qu'ils n'ont pas deviné qui, quand je les ai croisés, se cache sous mon domino. Oh non, je vous assure que même prévenu comme je le suis, j'ai peine à vous reconnaître. Je le crois. Sans cela, ce serait désastreux. Martin Huma, tout en achevant de coudre son nœud de ruban à son domino, ajouta « Le chevalier Fontis est dans un café qui donne sur la place de l'Opéra. Il attend là-bas mes ordres. Je lui ai fait dire de monter ici. On va nous l'amener. Dans quel but ?» Il faut surveiller du plus près possible le comte di Villa Cerboli au moment de la rencontre, être là pour la scène sensationnelle. Or, le chevalier ne peut, sous peine de faire tout manquer, se présenter en habit, se faire reconnaître. Le piège serait éventé. Oui, nous allons lui dire de passer un déguisement. Un domino ? Oh non, assez de dominos. Nous finirons par ne plus nous reconnaître, pour nous embrouiller et nous gêner. Le chevalier va se changer en Pierrot Blanc. Il n'a besoin, lui, que de se tenir dans le couloir. À ce moment, on frappa à la porte plusieurs coups espacés de certaines façons conventionnelles. « Entrez !» fit Martin Huma. Le gentleman qui m'avait abordé dans le bal, et qui était, je le reconnus alors, Philippe le peintre, parut précédant le chevalier. Martin Huma, en quelques mots, mit Fontis au courant de la situation, lui indiqua ce qu'il devait faire. Aidé par Philippe, le chevalier revêtit aussitôt un Pierrot Blanc, en tout point, ou à peu de choses près, semblable à ceux qui entouraient la fameuse loge. « Les autres, dit alors Martin Huma, ont, pour se reconnaître, le fameux signe de l'X. Nous, pour la même raison, adoptons ce signe, la main ouverte, la paume en dehors. Très bien. C'est un geste naturel. Un signe facile à faire et très visible pour qui est prévenu. Assez simple pour ne pas être remarqué par les non-initiés. Entendu. Vous, mon cher Courville, me dit Martin Huma, vous pouvez rester dans le bal. Votre mission, que vous avez remplie le mieux du monde, est finie. Rôdez au gré de votre fantaisie, aux alentours toutefois de la Focamore. On vous préviendra quand il sera temps, et on vous dira où nous pourrons nous retrouver. Je suivis Philippe, qui me fit traverser les couloirs réservés et rentrer dans le bal, puis m'abandonna pour aller, lui, reprendre le poste que son chef lui avait attribué. Pendant que nous étions dans la pièce au déguisement, avec le chevalier et Martin Huma, dans la loge de la Focamore se fit un mouvement indiquant un trouble profond. Le Pierrot Blanc que j'avais remarqué, et qui, comme le comprit Martin Huma, n'était autre qu'un membre de la société placée aux aguets, venait de dire à la belle Elvira « Le comte di Villa Cerboli est au bal ». Cette nouvelle inattendue produisit une profonde sensation. Il est assis dans le couloir. Celui-ci, oui, il peut voir par le Judas, en passant, ou de face, en faisant le tour, qui se trouve ici. À ces mots, le marquis Primo di Carmine Santucci, qui se tenait assis à côté de la belle Elvira, se leva. « Il vaut mieux qu'il ne puisse me voir parmi vous, avec toi, Elvira. Cela est prudent, en effet, va-t'en. D'ailleurs, nous n'avons plus rien à nous dire ce soir. Tu sais tout ce qu'il faut savoir. Adieu, Primo. Adieu, Elvira. » Le marquis, alors, se retira rapidement. « Ce que je ne vous ai pas dit, reprit le Pierrot Blanc, quand le marquis fut sorti de la loge, c'est que Martin Huma est aussi au bal. Martin Huma, fit-on surpris. Oui, il est ici, au bal. Pas pour nous. Il est impossible que ce soit pour nous. Pour nous, au contraire. Comment savez-vous cela? Nous avons suivi tout aujourd'hui le chevalier Fontis. Cet après-midi, il est entré avec une jeune femme chez le couturier, d'où vous, Elvira, vous veniez de sortir. Je le sais, dit Elvira, je l'ai vue. Je connais la jeune femme. C'est une petite mendiante, dont, sous les haillons, il devina la beauté et qu'il comble aujourd'hui de ses bontés. Puis, rageusement, elle demanda au Pierrot Blanc « Quelle importance peut avoir cette coïncidence ? Très grande. Il a vu votre domino. Qu'est-ce que cela fait ? Cela fait que dans la soirée, il est allé rendre visite à Villa Ciarboli. Chez moi ? Chez vous ? Oh, cet homme devient très gênant. » Fit l'avocat Moret avec un geste de colère. Et, naturellement, le valet de chambre du comte, qui se tenait aux écoutes, l'a parfaitement entendu tout révéler à Villa Ciarboli, lui dire que vous deviez être ici. Qu'a dit le comte ? Oh, il a voulu nier, déclarer que cela était impossible. Il savait, dit un habit noir, qu'Elvira devait avec nous, avec ma femme et moi, passer la soirée. Sans doute. Mais cette partie masquée lui a paru surprenante. Dès que le chevalier partit de chez lui, il a dit à son valet de chambre de l'habiller. Il est sorti. Il est venu au bal. Il est venu ici. Il erra pendant quelque temps. Puis, fatigué, il s'est assis sur une banquette. Et Fontis ? Le chevalier s'est rendu chez le détective. Martin Numa ? Parfaitement. Nous l'avons suivi jusqu'à la rue Lepic, pas de doute. Alors ? Peu après, le chevalier est redescendu dans Paris. Il est rentré chez lui, en est sorti en habit, et maintenant il se trouve dans un café donnant sur la place de l'Opéra. Il attend. Et Martin Numa, qu'a-t-il fait ? Martin Numa est sorti de chez lui. Il a fait quelques courses dans Paris, puis il est rentré à l'Opéra. Lui aussi. Maintenant, il se tient dans une loge, caché sous un domino. Avec lui se trouvent d'autres dominos. Des agents à lui ? Le Pierrot Blanc sourit. D'ailleurs, Martin Numa n'est pas venu pour nous. Pour qui donc ? Martin Numa, sur les indications du chevalier, n'est là sans doute que pour constater la trahison d'Elvira. C'est déjà beaucoup. Car cette constatation peut amener une dislocation. Villa Ciarboli est jaloux, rageur. Mais en ce moment, faible comme il l'est, que peut-il faire ? S'écria la belle Elvira. Qui peut le dire ? Il m'aime tant que j'aurais vite fait de le retourner, de détruire les plus accablantes preuves, et de le reprendre. Le Pierrot Blanc étendit la main. Nous avons prévu cette éventualité de la surprise, de la rencontre du comte au bal avec vous. Qu'avez-vous fait ? « Ma chère Elvira, nous avons déjà paré ce coup. Comment cela ? Villa Ciarboli sait que vous êtes avec les amis Palestrini. »« Oui, c'est lui qui m'a engagé à passer la soirée avec eux. »« Parfait. J'ai donc mis à la poste un petit bleu, dans lequel vous disiez « Retenez bien ceci. » »« Vous disiez que les Palestrini, désireux d'assister à un bal à l'Opéra de Paris, vous y entraînaient. »« Pour ne pas être reconnus et vus sans votre mari, vous portiez un domino comme Madame Palestrini. »« Et vous engagez le comte. » si ses forces lui permettaient, à venir nous rejoindre ici, à l'opéra, dans cette loge. On applaudit à cette ruse. Vous avez fait cela, c'est parfait. C'était une bonne précaution. Vous voyez qu'elle doit porter ses fruits, quand vous vous trouverez en face, dit Villa Ciarboli. Je ferai par conséquent comme si je l'attendais. S'il ne naît ici qu'à ma demande, et le tour sera joué. À présent, on riait dans la loge où tout à l'heure on s'était senti pris par une forte émotion. Cependant, le marquis Primo di Carmine Santucci, ne tenant pas à être vu dans cette compagnie par Martin Numa, comme nous le savons, s'esquivait en toute hâte. Au moment où il filait par la galerie, cherchant à s'abriter derrière les masques, les groupes, le comte di Villa Ciarboli l'aperçut. Il se leva péniblement et avec effort, très faible, très souffrant. Mais Primo, qui précisément voulait par-dessus tout l'éviter, continua sa marche, feignant de ne pas le voir, et ne se laissa pas rejoindre par le malade. Cependant, le comte di Villa Ciarboli, grâce à ses quelques pas, se trouvait maintenant à peu près à la hauteur de la loge qu'occupait la belle Focamore, d'où venait de sortir le marquis di Carmine Santucci. Un Pierrot Blanc qui, sans doute, le surveillait le précédait. En passant devant la porte de cette loge, le Pierrot frappa du doigt, comme pour un signal convenu. Était-ce que voulait dire ce signal ou se trompait-on sur la signification ? Toujours est-il que la porte de la loge s'entrouvrit au moment précis où le comte di Villa Ciarboli se trouva devant. Aussitôt, plusieurs exclamations se croisèrent. « Leo ? Elvira ? Villa Ciarboli ? Palestrini ?» Il y eut un moment de silence, comme il s'en produit après le cri spontané chez les gens surpris. Qui devait le premier se ressaisir et prendre le haut de la situation ? « Enfin te voilà, Anlio mio !» s'écria la belle Elvira en se levant et allant au comte. « Tu as pu faire ce sacrifice, répondre à mon appel, venir jusqu'ici. Oh, que je suis heureuse, que je suis heureuse !» Très digne, luttant pour conserver tout son calme, toutes ses forces, le comte essayait de sourire. Oui, cher ami, oui. Oui, j'ai pu venir jusqu'ici. Et je suis heureux de vous trouver. Ça n'a pas été sans peine, je vous l'assure.
En effet, Anlio, tu es très pâle. Tu me parais extrêmement fatigué.
Oh, décidément, j'ai eu tort.
Je n'aurais pas dû te prier de venir.
Pauvre ami, que de regrets.
Mais nous allons rentrer, c'est fini.
Je ne puis plus goûter aucun plaisir en te voyant ainsi. Nous rentrons.
Tout le monde dans la loge s'est élevé. Elvira fit les présentations au comte, nos amis Palestrini, le baron Paciello, le prince Ramolino. À chaque nom, le comte saluait. Il connaissait d'ailleurs tout ce monde et se demandait pourquoi Elvira lui présentait ainsi ses compagnons.
« Tu vois, cher Anlio, fit-elle en riant, que j'étais en bonne compagnie. Mon bonheur eût été complet si tu avais été à mes côtés. »
Elle était sortie de la loge et avait remis son masque. Au silence froid du comte, chacun comprit que cet équipé n'était pas du tout de son goût et que la Focamore allait en rentrant s'attirer une forte réprimande. Les Palestrini quittèrent aussi la loge et suivirent le comte et Elvira.
« Nous devons, cher comte, dit le Palestrini, vous présenter toutes nos excuses et vous dire que c'est nous qui avons entraîné ici Elvira. C'est pour nous faire plaisir qu'après vous avoir averti, elle a consenti à nous accompagner, ma femme et moi, au bal de l'opéra, que nous n'avions jamais vu. »
Le comte, pour toute réponse, fit un geste à l'adresse de Palestrini. Il avait pris par le bras la Focamore et l'entraînait lentement, se faisant plutôt porter par elle. Il la regardait, son front se plissait, et ses yeux froids brillaient étrangement. Sa bouche se crispait dans un mouvement volontaire du menton. La Focamore ne perdait rien de ce jeu de physionomie. Elle échangea quelques coups d'œil singuliers avec les Palestrini, avec deux ou trois habits noirs, et un Pierrot blanc qui passèrent. Dans la loge étaient restés le Pierrot blanc, le baron Paciello et le prince Ramolino. Ils avaient refermé la porte de la loge et parlaient vivement entre eux, très émus, très contrariés. Martin Numa se trouvait en ce moment en face de cette loge, de l'autre côté du théâtre. Il fit un signe, et les dominos, les gentlemen qui se trouvaient dans sa loge, à lui, la quittèrent aussitôt. Derrière le groupe formé par le comte, Elvira et les Palestrini, qui cherchaient à se frayer un passage parmi la cohue, se tenaient le long du couloir, la laitière aux volumineux appâts et le paysan normand, la Mimi Pinson, le pompier. En somme, les agents de Martin Numa surveillaient, suivaient. Le comte marchait lentement. Enfin, d'une voix blanche, pleine de rage contenue, ne pouvant plus garder ce qui lui brûlait le cœur, il dit à Elvira « Je m'étonne, Elvira. Je m'étonne grandement de vous trouver ici. »
« Mon cher Anlio, je vous ai prévenu par un télégramme. »«
C'est possible. Mais je suis quand même douloureusement surpris de vous trouver dans cette loge. »«
Vous savez bien que j'étais avec nos amis Palestrini. »«
Sans doute. Mais il y avait aussi avec eux le baron Paciello. »«
Oui, en effet, » fit Elvira en tressaillant.
« Il y avait aussi le prince Ramolino. »«
Oui, mais ils sont venus saluer les Palestrini. »«
Il y avait avec vous, vous dis-je, le baron Paciello et le prince Ramolino. »«
Eh bien ?» s'écria nerveusement Elvira. « Quel mal y a-t-il ?»«
Grand, Elvira, très grand mal. Non seulement vous venez ici sans mon consentement, à mon insu, mais vous y rencontrez le prince Ramolino et le baron Paciello. Ce sont les amis intimes, les associés, les complices du marquis Primo di Carmine et Santucci.
Complices en quoi ? Pourquoi ?
Ces gens sont tous de parfaits gentilshommes. Vous savez cependant que le marquis Primo di Carmine et Santucci est mon ennemi. » Qu'il a juré ma perte, qu'il cherche ma mort. »
Elvira Focamore ne répondit rien. Le comte reprit.
Ainsi vous, Elvira, ma femme, vous, Elvira, vous étiez en secret, l'ami de mes ennemis ?
Depuis un moment, un Pierrot blanc, bousculant tout le monde, fendant la foule, cherchait à se rapprocher du groupe, à se tenir auprès de Villa Cerboli et de la belle Elvira, comme s'il voulait écouter ce que disait le comte, s'il désirait aussi lui parler. Palestrini avait essayé de le repousser, de l'arrêter, mais le Pierrot blanc insistait. Alors, dans un geste machinal, involontaire, Palestrini toucha l'épaule de la belle Focamore. Elvira, comprenant sans doute le sens de ce signe, s'était retournée vivement. Elle avait aperçu le Pierrot blanc, et dans ses yeux noirs, sous son loup, un long éclair de haine jaillit. À ce moment, une bousculade se produisit. Une sorte de farandole, de masque en délire, passa, rejetant tout sur son passage, avec des cris, des éclats de voix, des rires de femmes. C'était la joie au paroxysme, le plaisir poussé à l'énervement, le tapage et le mouvement atteignant la folie. Plus haut que tous ces cris, que ces éclats de rire, dominant tout ce bruit, un cri de douleur retentit. Et quand la farandole fut passée, à terre, au pied du domino de la belle Elvira, se trouvait étendu, râlant dans une mare de sang, le comte Villacerboli, un poignard planté dans la poitrine.